Alors, Pasteur Vin et Laura, c'est un bienvenue officiel. Ça a été une merveille de vous connaître à travers les mois et les semaines. Nous sommes, comme tu as dit, pour la fidélité de Dieu sur toi et dans nos vies. Nous sommes, nous. Je vais prier pour vous. Père, nous sommes si... Merci pour ta bonté, ta grâce sur le pasteur Vin et Laura, sa femme. Merci pour sa famille. Nous prions pour ta bénédiction sur eux alors qu'ils s'engagent dans la vie ici à Barnaby. Que tu leur donnes un grand amour pour cette ville, pour le peuple de cette ville. Que nous puissions les aimer aussi, Seigneur, comme étant membres de la même famille et que nous prions, Seigneur, que les enfants puissent s'adapter rapidement dans le ministère des enfants, ici à l'école, ici à Barnaby. Nous prions, Père, qu'ils puissent trouver beaucoup de joie à te servir dans cette église. Nous te remercions pour la façon dont tu les as oints. Et nous prions pour ta bénédiction et ton onction sur eux. Que le pasteur Vin, qu'il soit en train de conseiller, de faire le mentorat sur quelqu'un, puis qu'il fasse une conversation. Je prie, Père, que tu puisses lui faire la grâce de ta parole, de ton amour, le discernement, la sagesse et la paix. Nous te remercions pour ce que tu fais et ce que tu es en train de faire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous avoir. Alors, nous commençons une nouvelle série, Matthieu 11, qui s'appelle Les Trésors Cachés, et le pasteur Vin va prêcher à toi-même ou à nous tous et à tous. Merci, pasteur Ray. Alors, ça, c'est beaucoup d'applaudissements. Il y a eu des mois où il n'y avait pas d'applaudissements. De toute façon, vous pouvez prendre votre Bible Matthieu, sur le livre de Matthieu 11 et je vous encourage à garder votre Bible offerte ou bien même l'application sur votre Bible. On va rester là. Ceux qui sont en ligne, bienvenue. Je veux juste vous encourager. Venez. Alors, je vais lire pour nous le livre de Matthieu 11, versets 1 à 19. Il est dit ceci. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent, « Es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous attendre un autre? » Et Jésus leur répondit, « Retournez auprès des gens et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent, normalement les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allés voir au désert ?» leur demanda-t-il. « Un roseau agité, çà et là, par le vent. » Oui, qui est donc êtes-vous allé voir un homme habillé avec élégance? Généralement, ceux qui sont également vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète, oui, assurément, et bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis, car c'est lui dont il est écrit, j'enverrai mon messager devant toi, je te préparerai le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, apparu jusqu'à cette heure, le royaume des cieux s'efforce par un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et en effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, c'est Élie qui devait venir. C'est lui qui a des oreilles qui l'entendent. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps? Ils sont comme des enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades. Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamenté. En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit. Et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse des dieux s'est fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. De temps en temps, ma femme, Laura, me demandera d'aller à l'épicerie. Elle veut que j'achète quelques produits. Et quand cette conversation commence, je lui dis souvent, est-ce que tu peux mettre une petite liste? Dans notre mariage, dans notre arrangement, la liste, c'est seulement trois, on ne va pas au-delà de cela. On s'est entendu comme ça. Alors quand elle commence à faire cette liste de trois, elle va souvent me demander, est-ce que tu veux écrire cette liste ou bien tu veux que je te texte cette liste? Et comme un grand homme, je dis toujours, comment est-ce possible? Alors que j'arrive à l'épicerie, vous savez ce qui se passe? Dès que j'arrive à la porte, et je deviens l'homme le plus misérable vivant. Je ne me souviens pas de trois articles qu'elle voulait. Et la seule chose que je peux faire, je vais l'appeler. Mais comme toutes les femmes, son téléphone est en silence, comme toutes les autres femmes. Et je panique, je ne sais pas quoi faire, parce que si je n'ai pas, je prends les trois mauvaises choses, je suis un homme mort. L'idée, c'est ceci. Elle a des attentes sur moi quand elle m'envoie. Et je n'ai pas des attentes sur moi-même, mais alors et alors, j'échoue de répondre à ses attentes. Pour le mettre dans un contexte plus sérieux, la semaine passée, nous avons entendu la mauvaise nouvelle, la nouvelle triste que la reine Élisabeth est morte et maintenant Charles qui est le roi de la Grande-Bretagne. Juste ou pas juste, il y a des attentes qui sont posées sur Charles. Deux fois, d'autres qu'il va rencontrer et d'autres qu'il ne va pas rencontrer. Mais il y a des attentes qui sont placées sur lui. C'est comme ça qu'on se retrouve dans le livre de Matthieu 11, au début de Matthieu 11. Il y a des attentes en l'air qui ont été forgées depuis longtemps et maintenant elles attendent d'être répondues. Et la question est celle-ci, est-ce que Jésus rencontre les attentes des Juifs du premier siècle? Et est-ce que Jésus aujourd'hui aussi rencontre nos attentes? C'est ça la question. Alors, je ne veux pas relire le texte, mais je vais me référer à ce texte et vous pouvez voir vous-même. Là, je vais au verset 1, là où on a commencé, et c'est là où Jésus parle de l'enseignement et en train de prêcher. C'est un texte pont de tout ce qui se passe à travers le Matthieu 10 et 11. Qu'est-ce que vous allez trouver quand vous allez dans Matthieu 11? Vous allez voir que Jésus donne l'instruction et des avertissements à ses disciples alors qu'il les envoie à l'extérieur pour aller faire le ministère. Et après les instructions et les avertissements dans tous les chapitres 10, Jésus, alors, Matthieu dit, il dit qu'il alla pour prêcher et enseigner. Jésus est allé dans certaines villes, les disciples sont partis et ceci devant un passage important, un moment important. Jésus est en train de prêcher. Le verset 2 et 3, nous sommes maintenant réintroduits à Jean-Baptiste, mais en ce moment, il est en prison. Si vous allez un peu plus loin dans Matthieu 14, on nous dira pourquoi et vous pouvez le lire pour vous. Mais le livre de l'évangile de Matthieu, Luc et Jean parlent de Jean-Baptiste comme quand Jésus est baptisé. Et d'autres, dans Luc, Jean, dans la narration, on sait que Jésus et Jean sont des cousins. On nous dit aussi que leur mère, quand elles étaient enceintes presque au même moment, et quand les mères s'étaient rencontrées, que le bébé était encore dans leur ventre, on dit que Jean a sauté de joie dans le ventre quand il a rencontré Jésus. Une note personnelle, j'espérais que mes cousins sauteraient de joie quand ils me voient. Mais ils fuient et se cachent. Vous savez, la chose la plus importante à propos de Jean-Baptiste ici, Et vous savez, il y a beaucoup de preuves historiques de sa présence, beaucoup plus des écrivains laïcs qui ont écrit sur Jean-Baptiste. Et alors la question, la question ici, c'est pourquoi? Parce que les écrivains séculaires ont juste laïcs ont juste écrit sur lui. Est-ce que qu'il est unique? Mais c'est vraiment une vraie figure. Premièrement, c'était quelqu'un qui avait qui était visuellement parlant. Jean-Baptiste était très très frappant. Il vivait dans le désert. Il ne mangeait que il mangeait que les miels et les sauterelles. Et qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? Ce serait comme moi vivant à Chilliwack, s'habillant avec les sacs d'ordures et manger des viandes séchées douces trempées dans le jus d'abeille. Ce détail est important même pour nous aujourd'hui, parce que ça dit quelque chose à propos des gens qui avaient une apparence différente et qui avaient un message différent, une apparence différente. La vérité ici, c'est que la chrétienté aujourd'hui, on encourage à travers les paroles que nous puissions aimer différemment, être différemment, se fâcher différemment, nous devons dépenser différemment, nous devons voir le sexe différemment. Pourquoi? Parce que la Bible nous le dit. La Bible change toute la façon que nous faisons, la façon que nous pensons, parce que selon les Écritures, la Bible nous dit que tout ce que vous faites, que vous le faites pour la gloire de Dieu et non pour nous, pour vous. En rentrant sur cette idée, Jean-Baptiste est dans la prison et son message est frappant. Jean-Baptiste est en prison et il entend à propos de la parole de Christ. C'est un point important ici parce que les écrivains de l'Évangile ici réfèrent sur les œuvres de Christ et non les œuvres de Jésus. C'est réfère par rapport aux œuvres de Christ. Matthieu est en train de nous montrer quelque chose d'important. Qui est-ce qu'il est? Quel est le rôle de Jésus? Bien sûr, il est le Jésus, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Et ça commence à se voir dans ce passage, à se dévoiler. Nous sommes informés que Jean a envoyé ses disciples pour qu'il aille lui poser des questions. Et la question est, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en chercher un autre? C'est ça la question. Jean est en train de demander à Jésus, dans des clairs et publics, il demande, est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le oint, celui qui avait été choisi par Dieu? Ma question pour Jean est celle-ci. Jean, est-ce que c'est pas Jean, toi le même, qui quand tu avais vu Jésus venir vers toi, tu avais dit, pour le baptême, tu avais dit, voici, dans Jean 1, 29, tu as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas toi? Est-ce que c'est toi toujours? C'est toi le même? Pourquoi ce changement? Avant qu'on aille à la réponse sur cette question, la question pour nous, c'est en tant qu'Église aujourd'hui ce matin, est y a-t-il des moments dans votre vie chrétienne où vous avez douté de Jésus? Si vous n'êtes pas disciple de Jésus, peut-être que vous avez un parent, je sais pas, dans la politique ou quoi. Et même en tant que pasteur aujourd'hui, depuis 20 ans, j'ai des fois, il m'arrive aussi des fois de douter de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu envers moi. Je peux peut-être vous donner certains incidents, par exemple, dans ma famille. J'ai deux enfants et des fois, je suis en train de texter quelque chose d'important ou pas. Des fois, les enfants vont venir tirer mon habit et dire, papa, regarde ce que je suis en train de faire. Et des fois, je veux leur dire, et tu peux pas voir que je suis occupé? Et après avoir dit ça, envoyer le message, fini ce que je devais faire et pensant que je suis important et occupé, à certains moments où je réfléchis, c'est les moments où je me sens le plus distant de Dieu, de Jésus, et que je sens que je ne mérite pas, je n'aime pas son amour. Et la vérité, c'est que La Bible nous dira que nous ne sommes pas dignes de sa grâce. Et le Saint-Esprit me rappelle du pardon de Dieu et de sa grâce. Et c'est un rappel, Psaume 103, ça me rappelle chaque fois qu'il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le mérite nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui les craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui les craignent. Il sait de quelles pattes nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. Église, soyez encouragés par cela. Jean-Baptiste pouvait avoir un temps difficile dans la prison, possible, on ne sait pas, mais la Bible ne le dit pas. Mais peut-être dans ce temps en prison qui a apporté, ce temps difficile a apporté le doute. Parce que Jean avait des attentes sur Jésus, juste comme toi et moi. Il avait les attentes que le Messie, le Christ, le Oint, le choisi de Dieu, ces attentes qu'il avait, c'est ça qu'il a exprimé. Il a dit, il a dit ça quand il a baptisé, avant de baptiser Jésus. Il a dit ceci en Matthieu 3, 10. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau et en signe de profond changement, mais quelqu'un qui vient après moi, il est plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en sa main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans le feu qui ne s'éteindra pas. Ce que Jean essaie de dire, c'est que le Messie apporterait non seulement le jugement, mais aussi le royaume de Dieu sur terre. Le choisi qui va apporter le jugement. Il est censé apporter le royaume de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre maintenant. Pour le mettre d'une façon simple, il espérait que le Messie allait se débarrasser de ceux qui n'appartiennent pas au nouveau royaume, puis mettre les mauvaises personnes à côté et amener les bonnes personnes. Et le royaume, c'est que c'est le règne et la règle de Dieu sur la terre. Mais sur ce point, il ne voit rien de ce que Jésus a fait. Après le chapitre 11, à partir de Matthieu 5, il y a le sermon sur la montagne. À Matthieu 8, après avoir guéri beaucoup de gens, les gens demandent, on ne te veut pas ici, on le dit. À Matthieu 9, il y a un passage intéressant où les disciples de Jésus, des gens vont demander comment est-ce que nous gênons et tes disciples ne gênent pas. Et Matthieu 10, nous voyons Jésus qui fait plus d'enseignements. Il n'y a pas de jugement jusque-là. Il n'y a pas de royaume. Il n'y en a pas. C'était Jean et l'entière nation qui espéraient voir le Messie d'une certaine façon exacte, avec des attentes qu'ils voulaient voir de leur Seigneur. Ils voulaient que le Messie vienne avec comme un puissant roi. Le roi puissant qui allait régner avec une armée, qui allait chasser les Romains. Mais Israël, à ce temps, alors que Jésus est en train de parler et que Jean est en train de proclamer la venue du Messie, Jean est en prison. L'Israël est toujours sous le règne romain, la domination romaine. Ils ne sont pas libérés. Jean, avec Israël, suspectait que si le Messie venait, le royaume était là et le royaume était en action, que Jean ne serait pas en prison, que les gens seraient libérés. Alors, Dieu sera toujours. Dieu sera toujours Dieu. La plus grande chose ici à propos des gens, je sais, il y a des doutes. Il y a toutes ces attentes qui n'ont pas été rencontrées. Mais la meilleure chose, c'est qu'il va vers Jésus pour demander, pas envers une autre personne. Pour certains d'entre vous qui êtes en train d'explorer le christianisme, je peux vous encourager à faire ceci. Jésus n'a pas peur de vos questions. Amenez vos questions. Et le passage, les pasteurs sont là pour aider, pour parler, avoir une conversation, une bonne conversation, même difficile. S'il y a quelque chose, venez, toquez. J'aime vivre ici en Colombie-Britannique, mais voulez-vous savoir, ça me rappelle l'Australie, mais voulez-vous savoir ce qui m'ennuie le plus ici? Et même si vous ne voulez pas le savoir, je vais vous le dire. Parce que c'est comme ça que je suis. J'ai remarqué que tout le temps de qualité que j'ai passé sur l'autoroute, je vis ici en Colombie-Britannique depuis 2 ans. Je pense que la moitié de ce temps a été dans l'autoroute numéro 1. Et il n'y a rien qui puisse changer. Nous faisons les mêmes choses. La frustration devient forte. Et je me dis, au milieu de ce chaos de conduire, Dieu demeure le même. Dieu reste le même parce que la Bible nous le dit. Frères et sœurs, écoutez-moi. Je sais que certains, pour certains, votre mariage n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Peut-être ça va pas comme vous l'espériez. Pour d'autres, je sais que vos enfants ne sont pas devenus ce que vous vouliez qu'ils soient. Vous espériez qu'ils soient meilleurs. Ou d'autres encore, je sais que vous aimeriez. J'aimerais avoir beaucoup plus d'argent dans ma poche, comme ça je pourrais respirer mieux. Beaucoup vivent encore dans le mensonge et ont peur de se faire prendre. Mais la plupart d'entre nous croient que nous pouvons vivre nos vies sans Jésus et nos vies sans conséquences, sans chaos. Mais la vérité est que nous sommes dans un chaos, pas peut-être extérieurement, mais au moins dans l'intérieur. Savez-vous, la Bible nous rappelle que c'est Dieu qui t'a aimé alors que tu étais encore dans le sein de ta mère. Il est le même Dieu qui t'aime encore, qui est aujourd'hui. C'est ça, c'est qu'il faut confesser. Que je confesse à Jésus, et il va pardonner, il va t'encourager à ne plus vivre de la même façon. Comme moi qui vendais l'héroïne à un drogué, la plupart des fois où j'étais retombé, c'était beaucoup de fois. J'essaye de sortir et je reviens. Combien j'étais déçu quand je revenais, est-ce que je me repentais? Non. Je ne pas dire. Ça te dit pas de dire je suis désolé. Ça dit repens-toi. C'est pas juste l'idée de mettre la drogue à côté. La vraie repentance, la repentance biblique, c'est mets la drogue de côté, va de l'autre côté et ne retourne pas et va vers le Sauveur qui va te satisfaire. Dans le verset 4 et 6, dans toute la section, ma question est comment Jésus non seulement apaise-t-il Jean avec ses attentes, en rencontrant ses attentes? Il les rencontre et puis, si vous regardez attentivement, il ne dit pas seulement une phrase, mais il a cité le livre d'Ésaïe 35 et 61. Et voilà ce qui est dit. Ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Alors les boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe des torrents couleront. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle, car il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance. Je conduis mon vélo de route au bureau presque chaque jour. Et alors que j'ai commencé il y a 3 semaines, J'ai tendance à mettre mon vélo dans mon bureau. Alors quand les gens viennent et ils remarquent mon vélo, ils assument que j'aime le vélo et ils me demandent. Laissez-moi vous dire qu'une chose, je déteste rouler à vélo. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a créé la voiture. Ça, c'est la première raison. Je n'aime pas le concept de vélo de route. Je n'aime pas ces petites culottes de vélo serré. Je déteste quand mes jambes font mal et encore plus que je pourrais me faire écraser et mourir. Avec un corps comme moi, j'ai pas beaucoup de chances de survie. Mais si vous me demandiez si j'aime plus ma femme, Laura, je pourrais vous indiquer sur les choses que je lui ai dit, les rares moments où je lui ai acheté des fleurs, mais aussi comment j'ai prié pour elle, comment j'écris pour elle, comment j'écris d'elle dans mon journal. Ce que j'ai dit, écrit et fait, tout correspond. C'est une preuve. Ce qui me conduit au deuxième point. La Bible est toujours suffisante. Si vous regardez attentivement ce que Jésus dit dans ces passages, il est en train de coter les Écritures. Il parle de la venue du Messie. Jésus encourage Jean, souviens-toi ce qui a été écrit, souviens-toi ce qui a été dit, souviens-toi ce que tu as enseigné et regarde comment toutes ces choses se vont ensemble. Parce que la Bible témoigne comment est-ce que le Messie serait et ce que Jésus était en train de faire et tout ce qu'il était en train de faire, tout venait ensemble. C'est ce que Jésus est en train de dire à Jean. Voyez-vous, c'est vraiment important qu'il puisse citer les Écritures. Parce que on peut personnellement définir les Jésus ou bien il faut laisser la parole définir Christ, que vous l'aimiez ou pas. Voilà le verset 2, mais ce passage ensemble, ça rencontre les attentes qui n'ont pas de gens. Parce que Jésus ne voulait pas que Jésus aille prêcher, guérir. Et Jésus voulait que Jean voulait que Jésus renverse le gouvernement, qu'il apporte le règne et la règle de Dieu. Et Jean a été encouragé de faire confiance à le processus de Dieu. Jean, je sais que tu es encore en prison. Je sais que peut-être que tu ne sortiras même pas de la prison vivant. Mais crois, fais confiance à tout ce que je fais, toutes les portes que je ouvre, toutes les portes que je ferme. Tu peux me faire confiance et les Écritures te le prouvent. Regarde attentivement, c'est que l'anxiété de Jean est calmée, pas à travers les miracles, pas à travers les paroles. Intelligente, mais seulement à travers la parole de Dieu. Et c'est tout. Et puis au verset 7 à 10, ce qui semble un réprimande publique à Jean-Baptiste suit maintenant une louange publique de Jean. Jésus tourne aux gens et demande pourquoi est-ce que vous êtes allés au désert pour voir Jean? L'histoire qu'il y a derrière, c'est qu'il y avait 400 ans plus tôt, il avait été écrit que quelqu'un viendra parler au peuple d'Israël que le Messie est en train de venir. Quelqu'un allait le précéder, le Messie. Et tous, dans leur pensée, ils pensaient que ça allait être le prophète Élie. On pensait qu'Élie était le messager parce que il était enregistré dans 2 Rois 2, vous pouvez le lire pour vous, que Élie n'avait pas goûté à la mort, il n'était pas mort. Et dans cette histoire, il est amené directement au ciel en vivant. Non seulement cela, mais Élie était connu pour les vêtements qu'il portait, 2 Rois 1:8. Et à quel type de vêtements ressemblait-il? Les mêmes vêtements que Jean-Baptiste. Une note importante, rapide, mais Jean n'est pas la réincarnation de Élie. Il est dit juste qu'il est venu avec la puissance et l'esprit de Jean. Le message de Jean qui est si frappant, qui réveille à ce temps. Et Jésus demande, pourquoi est-ce que vous êtes allé à la rivière Jourdain? Est-ce que Vous espériez, attendiez-vous à voir un roseau se balancer au vent? Il était connu qu'il y avait beaucoup de roseaux sur sur le Jourdain. Et est-ce que vous êtes allé voir? Vous n'êtes pas allé voir seulement quelqu'un qui était bien habillé. Non, les gens d'Israël attendaient depuis 400 ans que Élie revienne. C'est pourquoi ils sont allés voir. C'est pourquoi ils sont allés voir Élie. Qui sont allés voir Jean. Et il y a une répétition ici dans Malachie 3 il est dit: Voici, je vais envoyer mon messager pour qu'il aplanisse la route devant moi. Et ça me conduit au troisième point. Jésus est toujours le plus grand. Saviez-vous que pour les Juifs, tous les moments de Pâques, quand ils célébraient la délivrance qui s'était passée en Égypte, et on le voit dans le livre d'Exode, ils célébraient le passage, la Pâques, et ils le faisaient là depuis beaucoup d'années. Et là maintenant, pendant qu'ils célébraient Pâques, depuis 400 ans, il restait une chaise vide, et c'était la chaise de Élie. Vous pouvez voir visuellement cette attente. Alors, Jean-Baptiste entre en scène avec sa tenue visuellement frappante par son message inébranlable de repentance. Les attentes du peuple sont satisfaites et c'est pourquoi ils sont tous allés dans le désert. Le temps était maintenant venu pour Dieu de sauver son peuple. Christ devait être là. Et Jean était le premier signe, le premier signe. Avez-vous déjà participé à une fête d'anniversaire surprise? Je ne les aime pas, premièrement. L'organisateur vous dit de faire en sorte de ne pas gâcher la surprise, mais le jour de la fête, on vous dit où est-ce que vous allez mettre votre voiture. Il faut garder la voiture loin, enlever vos choses et aller les cacher plus loin pour que personne ne sache. Oh mon Dieu! Et nous sommes dedans, nous faisons partie d'un mensonge. Mais la beauté à propos de cette surprise, de cet anniversaire surprise, tout le monde se cache, bien. Il y a toujours quelqu'un parmi les organisateurs qui se garde à la fenêtre en train de regarder l'heure, et je pense qu'il est là. Et puis il regarde, il y a une anticipation. Et puis finalement, la personne qui organise, elle regarde, puis il dit, elle crie à tout le monde, il est là, il est là. Et c'est exactement ce que Jean est en train de faire. Il est en train d'ouvrir la fenêtre, il est en train de regarder, et puis il voit le Messie. Et puis il dit, le Messie est là, il est là. Le point que Jésus veut dire ici dans ce passage, c'est que oui, le messager est grand, mais le message pointe vers quelque chose de plus grand. Nous sommes reconnaissants pour la personne qui pointe par la fenêtre pour nous dire que la personne est là, mais nous sommes plus reconnaissants quand l'anniversaire, celui à qui appartient l'anniversaire arrive. Nous célébrons. Pas Jean-Baptiste, nous célébrons Jésus. Dans le verset 11 à 15, Jésus continue de parler de la grandeur de Jean, mais nous dit que Jean est d'une génération différente. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Jean appartient à l'Ancien Testament. Un temps où on devait faire des sacrifices les animaux, où les gens devaient aller au temple pour rencontrer Dieu. Le temps où les prêtres devaient représenter les gens, et temps où les rois humains allaient régler et régner sur les gens. Et Jésus est en train de dire que cette époque est arrivée à la fin. Et dans cette époque, Jean est le plus grand parce qu'il est en train de vous pointer vers moi. Il est en train de dire que maintenant vous devenez plus grand. Alors que vous mettez votre foi en Jésus, vous êtes plus grand. Parce que vous êtes dans cette nouvelle ère, une ère meilleure par rapport à celle passée où Jésus est roi. Bien que ces moments soient rencontrés avec beaucoup d'attentes, Jésus est en train de dire, les gens vont vous haïr. Si vous regardez, Jean est en prison. Israël est encore sous le règne, la domination de Romains. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous et pour nous, pour eux et pour nous. Premièrement, la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'éloigne pas la persécution, toutes ces choses-là, la mort, il ne le dit pas, il n'y en a pas dans la Bible. Mais la bonne nouvelle est que l'Église grandit historiquement, non par le confort et la sécurité, mais par elle a grandi par la souffrance et la persécution. Toujours. Toujours. La parole de Dieu, c'est que un jour, tout sera correct. Et cela va être, tout le monde le saura. Jean 16, 17, Jésus est en train de parler et il donne une scène. Les gens au marché, en train de jouer à la flûte, il donne une image. Mais la référence exacte ici, il est en train de parler du ministère de Jean-Baptiste et de son ministère. Jean appelait les gens à se repentir, de fuir, de changer leur vie, d'aller vers Dieu. Et il est en train de dire, c'est ça le cas. Si Jean était en train de vous appeler à vous repentir, vous devriez ressentir quelque chose, vous devriez être endeuillé, mais vous ne l'avez pas fait. Oh, c'était la joie et tout ce que votre orgueil et vous pensez que tout est correct. Mais quand, avec le gars qui a le propriétaire d'anniversaire, quand il vient, il a une autre façon de vivre. Au lieu que les gens puissent se réjouir, ils sont maintenant tous en train seulement de se plaindre. Église, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Je voudrais nous encourager à réfléchir profondément en Jésus, maintenant, spécialement alors que nous sortons de cette pandémie. Ce n'est pas une saison de soulagement parce que penser à nous-mêmes, oh, nous sommes merveilleux, nous sommes contents, nous avons passé ces moments. C'est un temps de réjouissance. Pourquoi? Parce que collectivement, tout à travers le monde, l'Église se rencontre physiquement en train d'adorer notre Dieu ressuscité qui est vivant, Jésus. Mais le problème est que nous sommes des brebis. Constamment, nous sommes distraits. Nous sommes si distraits avec beaucoup de choses. Et je veux juste souligner une seule chose, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais choisir. Le logement est devenu un problème majeur dans la région métropolitaine de Vancouver et au-delà. Les taux d'intérêt sont élevés et peuvent être continués à s'élever. Les tests de résistance financière sont devenus encore plus stressants. Vous avez d'un acompte de 20%, ce qui revient à environ 300 000 dollars à 500 000 dollars pour une première acompte. Mais comment économiser pour une mise de fonds lorsque le loyer est si élevé? Je connais de nombreux jeunes adultes qui veulent abandonner et déménager dans d'autres provinces plus abordables. Pourquoi? Yes, pourquoi? Pardon. Les jeunes familles n'ont pas assez d'espace pour leurs jeunes enfants. Avoir pour jouer et s'amuser. Les immigrants, quel espoir avez-vous quand vous arrivez ici au Canada avec rien? D'autre côté, nous avons des familles qui ont travaillé très dur et qui ont eu la chance qui ont été bénies, vous avez été bénis, qui possèdent une maison. Certains pourraient dire à cette génération, qui dirait, ils diront de tirer fort, ce qui signifie pour cette génération si, que devait travailler, cette génération doit travailler et l'autre travailler, doivent travailler et ils obtiendront ce qu'elles méritent, bien sûr, peut-être, peut-être. Mais la vérité, c'est que la disparité, l'écart entre les écarts et les coûts de logement n'a jamais été aussi été éloigné. Il y a des décennies, l'écart n'était pas si grand et posséder sa propre maison était à portée de main. Mais ces jours s'estompent lentement. Mais la vérité est que les deux parties peuvent être distraites. Un côté est distrait parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien. L'autre partie est distrait parce qu'ils pensent qu'ils ont tout. Alors, ma question, est-ce que Jésus appelle les chrétiens à posséder une maison? Est-ce que c'est ça ton but? Ou bien Jésus appelle-t-il tous les chrétiens à réfléchir et à investir davantage dans leur demeure éternelle? C'est ça la question. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison, ouvrez ses portes, invitez les gens, partagez un repas, ayez une conversation. Pour ceux qui ne pourraient ne jamais posséder, tout ira bien. Comme votre pasteur, je dirais ceci. Tout ira, tout sera OK. Aimez et servez bien votre famille. Vous n'avez pas besoin d'une maison pour le faire. Vous pouvez trouver d'autres moyens d'être généreux. Et écoutez, une maison n'a pas besoin de vous, mais ceux qui vous aiment ont besoin de vous. Laissez-moi conclure avec le verset 19. C'est comme ça que nous finissons. Dans le verset 29, Jésus est en train de dire, et cependant, la sagesse des dieux s'est fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Ce que Jésus dit simplement ici, c'est que tout ce que Jean a enseigné sur Jésus et tout ce que Jésus a enseigné sur lui-même, avec le recul, prouvera que le message qu'ils ont prêché répondra à toutes les attentes et au-delà. Que ce message est correct, mais au-delà de tout ça, ça répondra à toutes les attentes, que ça va aller au-delà de tout. Je sais, vous pouvez avoir certaines attentes sur Jésus, et chacun d'entre nous devrait. Peut-être certains d'entre vous pensaient que Jésus est un super-héros et qu'il va venir et sauver la vie, enlever tous les troubles. Peut-être que vous pensez que c'est un génie dans la bouteille et que si vous faites la bonne chose, il va vous accorder tous vos vœux, tout ce que vous demandez, il va vous donner. Ou peut-être vous pensez qu'il est Saint Nicolas, le Père Noël, quand vous agissez bien et puis il va vous aimer. Si vous pensez comme ça, vous avez tort. Parce que quand vous allez rencontrer Jésus, il va surpasser toutes les attentes que vous avez placées en lui. Parce que toutes les attentes que vous avez de lui sont loin par rapport à ce qu'il est. Et ses grandes œuvres, sa plus grande œuvre, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Ça dépasse toutes les attentes parce que si nous étions honnêtes, et la situation difficile avec nous-mêmes, les erreurs que j'ai commises, les blessures que nous avons causées, les torts que j'ai initiés, toutes les conséquences de nos décisions devraient être carrément sur nous et nous seuls. Mais ce que Jésus a fait, c'est qu'il prend sur lui et il sauve ceux qui placent leur foi en lui. C'est sur sa croix que tu vas trouver les trésors cachés qui dépassera toutes les attentes. Prions. Seigneur Jésus, nous venons devant toi à cause de ta mort, de ta vie, ta résurrection, ton ascension et ton retour. Ça va nous éblouir nos pensées. Seigneur Jésus, aide-nous à avoir une grande pensée de toi et avoir une pensée humble sur nous-mêmes, comme Jean l'a proclamé. Jésus, aide-nous à savoir que tout ce que nous avons besoin se trouve en toi et que tu surpasses toutes ces choses. Et pour ceux d'entre nous qui ne te connaissent pas encore, par ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit, puisses-tu leur faire connaître cela? Jésus, nous te disons merci pour ton grand nom. Nous avons prié en ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Il y aura des questions, des réflexions sur l'écran.